Il est 17h27, Pierre-Yves McSween est devant moi et ça, c'est pur bonheur. Pierre-Yves, tu vas nous parler tout d'abord des personnalités québécoises de l'année du monde des affaires.
Oui, c'est un long sondage léger opinion sur 1017 Québécois. Mais ce qui est drôle, c'est les résultats. Quelles sont, selon vous, les personnalités québécoises d'affaires de l'année? Et bon, premier rang...
J'espère qu'il y a beaucoup de femmes.
Oui, mais premier rang, Sophie Brochu. Puis effectivement, première femme nommée à la tête d'Au-Québec, ça fait tout son sens. Après ça, on tombe à Alain Bouchard avec Couche-Tard. Bon, on ne parle même pas du gestionnaire de Couche-Tard, on parle d'une personnalité liée à Couche-Tard, actionnaire. Donc, ça, c'est surprenant. C'est surtout lié au fait que les gens sont habitués d'aller chez Couche-Tard et ils disent ben, le patron ou le propriétaire de Couche-Tard. Ricardo en troisième.
C'est Monsieur Tout-le-Monde qui a voté ou?
Oui, c'était Monsieur Tout-le-Monde sur Internet. Okay. Ricardo en troisième. Bon, Ricardo, oui, peut-être qu'il y a eu des réalités avec la restructuration de son modèle d'affaires. Je suis assez d'accord. Quatrième position, là, ça ne va pas du tout. Véronique Cloutier, bien qu'on puisse dire que c'est une excellente animatrice et tout ça, ce n'est pas une personnalité d'affaires, selon moi. Oui, elle a une entreprise.
Oui, elle produit beaucoup et avec son chum. Là, son,
mais c'est Chaos. Mais Chaos, c'est une autre gang aussi avec lui. Donc, j'ai trouvé ça surprenant. Et c'est là qu'on voit que les gens regardent qui est visible davantage. Et la marque, Véro, c'est une marque. La personnalité d'affaires, c'est peut-être pas elle, on ne sait pas.
Elle a son magazine.
Et elle est devant Pierre-Carl Péladeau. Alors là, tu sais, on gère un empire, puis on... Là, j'avais un petit peu de réserve. Il y a aussi, après ça, Peter Simons. Oui, on a révisé toute la réalité du commerce de détail pendant l'année avec les entrepôts, l'informatisation, l'automatisation.
Oui, puis c'est un homme qui n'a pas trop peur de répondre aux réponses.
Non,
c'est quand il est dans des entrevues, il parle.
Puis il était là dans l'actualité. Dominic Brown, c'est Chocolat Favori. Je pense que les gens ont plus voté pour Chocolat Favori et l'Ancien Dragon que son année. C'est comme Vincent Goudzou. Vincent Goudzou, on l'a entendu toute l'année se plaindre. Des mesures sanitaires, puis peut-être qu'il y avait beaucoup d'antivax dans les votants, je ne sais pas. Christiane Germain, effectivement, c'est une personne qui a vécu la pandémie de façon très difficile parce que tu es dans l'industrie récro-touristique. Il faut fermer ou ralentir les activités, donc ça, je comprends. Mais après ça, on tombe à Jean Coutu. Bon, je suis sûr que M. Coutu, à ses 94 ans, vénérable, est encore actif, mais... On ne peut pas dire que 2021, c'est son année ou qu'il s'est passé quelque chose.
C'est les pharmacies qui sont bien connues.
C'est le commerce de proximité.
Oui,
après ça, Daniel Henkel, l'ancienne dragon. Et là, en 12e place, Louis Morissette. Et donc, on juge au Québec que dans les 12 premières positions, le couple Louis et Véro font partie des 12 gens d'affaires les plus de l'année. C'est quand même surprenant. Et surtout après, Cœur de pirate. Oui, Cœur de pirate a racheté dans la dernière année.
Oui, mais ça ne fait pas d'elle nécessairement la femme de l'affaire de l'année.
Ouais, c'est une petite maison de disques, mais c'est un geste, mais ce n'est pas... Elle est devant Jeff Molson, qui lui a vécu tous les déboires du Canadien. Après ça, Louis Cormier. Caroline Néron revient, peut-être pour les bijoux, qu'elle se relance en affaires, peut-être. Lise Wattier, je ne savais pas que Lise Wattier avait vécu une grosse année 2021. Ça a l'air que les Québécois aiment beaucoup les produits. François Lambert, je suis assez d'accord, on le voit partout. Mais bon, il y a une question après ça de visibilité et d'importance ou de fait d'armes. On se souvient des personnalités de la presse. Il y avait un fait d'armes avec eux durant la semaine. Ça, c'est vraiment un sondage. Après ça, on a Joey Saputo. Son plus grand fait d'armes cette année, je pense, c'est d'avoir changé le nom du club. Ça a fait jaser.
Oui, c'était pas très heureux non plus, puisque de toute façon, on continue d'appeler...
L'impact.
Ben oui.
Pour moi, c'est encore le FC Supra de toute façon. Et je vais te parler après ça. Le plus surprenant pour moi, c'est le 20e.
20e.
Adrien Gagnon.
Oh.
Peut-être parce que les gens aiment beaucoup les produits naturels. Bon, d'honneur à moi après avec M. Rossi. Bon. Louis Garneau, oui, a vécu une grande restructuration.
Dure année, je te dis. Ben, en fait, dure 2 ans. Là.
2 ans, puis après ça, il s'est restructuré, il a sorti sa biographie. Donc, ça va, tu sais. Mais c'est quand même drôle de voir que le 25e aussi, c'est Guy Laliberté qui, en fait, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir vendu trop cher le Cirque du Soleil en 2020. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil, mais c'est comique quand même.
Je peux te demander, toi, ça aurait été qui ton numéro 1?
Mais moi, j'aurais été quand même, pas des numéros 1, mais j'aurais nommé des gens comme Dax Da Silva de Lightspeed, qui est une entreprise qui a vécu, grâce à la pandémie, une croissance incroyable parce que les systèmes comptables, informatiques, d'inventaire, puis d'Internet, tout ça est connecté, le paiement. Et peut-être M. Tétu, PDG de Coveo, qui a envoyé une compagnie québécoise en bourse. Même chose avec les gens de Lyon. Donc, au niveau du monde des affaires, il y a des gens qui ont fait des coups d'éclat.
Qui ont accompli des choses importantes, comme tu dis, des faits d'armes.
Des faits d'armes
pour
qui
dire,
ont été soulignés.
On vote pour lui à cause de ça.
C'est ça. Ouais. Donc, mais écoute, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle le business to business, c'est-à-dire que le client n'a pas souvent affaire avec des compagnies qui ne font pas affaire avec des clients finaux, comme un client chez Jean Coutu. Donc, ils ont moins de visibilité, mais ce sont des entreprises très importantes au Québec. Quand j'étais vérificateur plus jeune des compagnies cotées en bourse, ce que j'ai réalisé, c'est à quel point il y avait des entreprises qui existent, qui sont inconnues du public parce qu'elles sont dans des parcs industriels, dans des usines, mais qui fournissent des choses importantes.
Bon. Écoute, on va à ton deuxième sujet, oui, qui est la diversité géographique 2019-2021,
oui,
l'évolution qui évolue.
Oui, non, mais l'évolution, l'évaluation qui évolue.
Ah, l'évaluation qui évolue.
Oui, excuse-moi, oui, du terme. C'est parce que en 2019, si je t'avais parlé d'un chalet, tu m'aurais dit, Pierre-Yves, un chalet, c'est un placement long terme, c'est pas très liquide, on peut le louer, bon. Et pendant la pandémie, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que il y a eu beaucoup d'argent qui a été envoyé dans les régions parce que les gens voulaient avoir des chalets, voulaient avoir une place pour aller parce qu'ils ne peuvent plus voyager.
Oui,
les coûts de construction ont augmenté. Les matériaux ont monté en valeur. Et donc, c'est devenu dispendieux, mais surtout, ça a changé de valeur. Parce que les gens, c'est devenu une assurance vacances. Et ça, ça a pris de la valeur et ça a changé la réalité des gens locaux. Et un bon exemple, c'est Charlevoix, qui était déjà dans les cartons de toute façon. Mais de te faire dire à Charlevoix que tu as à côté un Club Med, bien, ça amène des gens de l'extérieur à venir spéculer sur la valeur immobilière du coin, les terrains. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de régions au Québec qui vivent ce que Tremblant a vécu, Saint-Jovite.
Tout à fait. J'ai loué un petit quelque chose dans Kamouraska,
oui,
l'année dernière et cette année.
Qui était
quand
loin
venu,
à l'époque. Tu sais,
ben,
les gens y allaient
oui,
pas.
Mais quand j'ai voulu relouer cette année, ça a été très difficile. Puis j'ai parlé à une dame là-bas qui connaît très bien le marché. Puis elle m'a dit, écoute, les gens qui sont venus en location l'année passée, ils ont acheté, ils ont trop aimé ça, puis ils ont acheté. Il y a de moins en moins de chalets à louer à cause de ça.
Puis il y a la rareté.
Et
de
même chose. Ouais.
Oui. Tu sais, c'est que les gens achètent à Montréal en disant, bon, moi, j'ai une équité, disons. Les gens disent, j'ai 200 000 sur ma maison d'équité. Donc, je m'en vais acheter avec ça une résidence secondaire loin qui coûte peut-être 200, 300 000, mais elle est majoritairement financée par la maison dans un milieu où c'est plus cher. Donc, tu as un avantage géographique par rapport aux gens locaux. Ajoute à ça le fait que présentement, il y a un effet de rareté très, très grand. Et qui plus est, là, il y a des villages qui ont passé des règlements, des municipalités, que la location court terme est rendue interdite ou plus difficile. Alors, il y a des chalets qui avant se louaient à la semaine, qui maintenant ne peuvent se louer que pour 32 jours et plus. Mmh. Et donc, ça crée tout ça, cet effet de rareté et cette hausse des prix dans le marché.
Fait que là, toi, ton chalet...
Bon, mon chalet, pour l'instant, il n'y a même pas une fosse septique, même pas un puits. C'est plus un projet de terrain.
Ben, c'est déjà quelque chose.
Ah, ça coûte pas cher.
Ça évolue.
Ça évolue.
Ça a l'avantage d'évoluer à long terme. Hey, merci beaucoup, Pierre-Yves McSween. Est-ce que tu vas être là aussi demain en studio?
Peut-être pas en studio. Ça coûte cher, se déplacer.
Ben, c'est pas Patrick, hein, c'est
mais
ça.
Mais ça coûte trop cher, se déplacer.
Viens à pied, viens en vélo. OK, on s'arrête. M. Gilles sera là après pour nous parler d'un petit livre d'école d'une autre époque. Vous allez voir, on part de loin, loin, loin au Québec.